Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir très joyeuse fête de Pâques. À vous tous que nous sommes heureux de célébrer en votre compagnie et en ce libre journal des amitiés françaises. Ce sera en effet le thème de notre émission ce soir. Les pères de l'Église, nous avons parlé dimanche dernier des pères de l'Église. Les pères de l'Église conseillaient d'observer la nature comme l'une des preuves de l'existence de Dieu. Eh bien, la résurrection printanière, magnifique en ce moment, les couleurs blanches, roses sont tout autour de nous. Eh bien, cette résurrection printanière est bien à l'exemple de celle du Christ que nous célébrons aujourd'hui et ce soir dans notre studio. Beauté de la nature, beauté de la musique, mystère merveilleux de la résurrection du Christ, ce sera en effet le thème de notre émission. Beauté de la musique, car le génie de Bach nous accompagne ce soir en compagnie de son spécialiste, notre spécialiste préféré et reconnu, le pasteur Alain Joly, qui a préparé pour nous une sélection commentée de beaux extraits en lien avec cette fête de Pâques. La musique de Pâques, aime à dire le pasteur Joly, est un catéchisme vivant, c'est une musique universelle, éternelle, qui ce soir éclairera particulièrement donc ses propos sur les manifestations du Christ. Nous allons parler de la fête de Pâques sous cet aspect particulier des manifestations du Christ, c'est-à-dire de ses apparitions, juste après celle, la première, après sa résurrection proprement dite, jusqu'à son ascension. Quelle est l'histoire de ce temps particulier marqué par les apparitions du Christ vivant? Que veut-il nous dire à travers ces apparitions? Que nous demande-t-il et pourquoi? La question se pose en effet car les évangiles ne racontent pas tous les mêmes événements et pas de manière identique, c'en est parfois surprenant. Nous avons besoin d'être éclairés pour vivre pleinement ce temps pascal dans la joie et l'espérance. Nous le serons, espérons-le, par Bach et donc les commentaires du pasteur Alain Joly. Je précise, chers auditeurs, que le standard sera présent. Laurent sera au standard dans quelques instants, dans quelques minutes. N'hésitez surtout pas à téléphoner, à poser vos questions, à envoyer vos messages. Je rappelle le téléphone de la radio, 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Pasteur Alain Joly, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Delcourt.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct. C'est formidable d'avoir un religieux dans le studio en direct le soir de Pâques. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous connaissent bien, vous venez régulièrement pour notre plus grand plaisir, que vous êtes pasteur luthérien chargé de cours à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Vous êtes aussi l'ancien président du consistoire luthérien de Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, liés d'ailleurs à Jean-Sébastien Bach, qui est effectivement l'une de vos grandes spécialités. Je citerai parmi eux « Prier 15 jours avec Jean-Sébastien Bach », ça c'est à Nouvelle Cité, Bach, maître spirituel aux éditions Talendier, où vous avez pris aussi quelques chemins de traverse, puisque vous aimez l'histoire, et plus particulièrement celle de Napoléon. Vous avez écrit aux éditions Onésime, Napoléon et les protestants. Je crois que vous avez encore bien d'autres ouvrages en préparation, dont peut-être vous allez nous parler. Je précise aussi que vous parrainez le Festival du Beau, qui est un événement qui promeut l'unité chrétienne à travers les arts. Et ce soir, nous allons parler d'art musical, bien sûr, avec Bach, mais aussi d'un certain nombre de représentations dans l'art, de ces différentes manifestations du Christ après sa résurrection. Monsieur le pasteur, j'aimerais vous poser une question sur une phrase de Suran, concernant Jean-Sébastien Bach, parce que ce soir, il va être question, bien sûr, de Jean-Sébastien Bach. Vous nous avez préparé de nombreux extraits que vous nous présenterez, bien sûr. Et voici ce que Émile Cioran disait de Jean-Sébastien Bach. Alors, il était fils, de, je crois, de prêtre orthodoxe. Cioran, voici ce qu'il dit de Bach. Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. Que pensez-vous de...
C'est ce que nous disions. Une formule paradoxale, puisque Émile Cioran, il est vrai, fils de prêtre orthodoxe roumain, est tout de même l'un des plus acerbes représentants du pessimisme et de l'absurde même. Mais Bach, dans son environnement, je ne sais comment il appréciait précisément la musique de Bach, mais pour lui, c'est comme une preuve d'existence de Dieu. Parce que c'est une musique qui est différente de la musique ordinaire. Elle touche les cœurs parce qu'elle a un lien avec une familiarité du sacré, comme si elle faisait descendre le sacré jusqu'à l'humain, jusqu'à l'écoute, jusqu'à l'audition de l'humain. Et donc il le suggère, c'est peut-être une formule de manière un peu, enlevée pour provoquer, que finalement... si l'on devait prouver l'existence de Dieu, bien rien sur la terre ne pourrait y parvenir, sauf la musique de Bach. Voilà, alors il dit, j'ai tout de même, si Dieu existe, finalement, ce serait parce que Bach aurait entrouvert le ciel pour nous le faire connaître. Mais c'est un point de vue quand même d'un personnage très singulier. Il est vrai que cette citation est très souvent apportée dans... pour conforter le fait que la musique de Jean-Sébastien Bach est tout entière à la gloire de Dieu, même quand elle n'est pas à destination religieuse, même quand elle n'est pas pour la liturgie des églises, luthérienne en l'occurrence, puisqu'il était de cette confession-là. Mais en même temps, il ne faut pas l'exagérer non plus. Dieu a-t-il besoin de quelqu'un d'entre nous, même le meilleur, le plus génial des artistes, pour signifier son amour au cœur des hommes? Moi qui suis vraiment passionné par Jean-Sébastien, évidemment, je le mettrai en avant comme une médiation. Mais Dieu se manifeste, comme vous l'avez dit d'ailleurs en commençant, de manière fort touchante, dans la nature, dans les couleurs du printemps, ou dans l'austérité de l'hiver, ou dans tout simplement l'être vivant qui est auprès de nous et qui attend miséricorde, ou qui signifie pour nous la miséricorde.
Monsieur le pasteur, lorsque nous avons préparé le thème de cette émission ce soir, vous aviez suggéré les apparitions du Christ entre donc la première manifestation du Christ et puis jusqu'à l'ascension. Et déjà, le problème en préparant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'accord dans les évangiles sur la première apparition du Christ. Il y a des différences notables. Selon vous, la première apparition de Christ, et puis nous évoquerons naturellement ces apparitions de manière générale et rentrerons dans le détail des apparitions principales de la deuxième.
Il paraît assez évident, et je crois que c'est consensuel, que c'est Marie-Madeleine qui bénéficie de la première apparition. Mais avant cela, il faut préciser ou bien insister sur le fait que personne n'a assisté à la résurrection.
Oui.
Les quatre témoignages, donc les quatre évangélistes, ou l'allusion qui se trouve ensuite dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres de Paul, ou tout le reste du Nouveau Testament, signalent bien qu'il est ressuscité alors que le Shabbat est passé. Vous savez, beaucoup de traductions nous disent que c'est le premier jour de la semaine. Ce qui est vrai, le premier jour de la semaine juive, donc on est dans le commencement d'une ère nouvelle, d'une certaine façon. Mais littéralement, chacun des évangélistes dit « quand le sabbat fut passé ». C'est-à-dire qu'il faut prendre la mesure que le Christ, qui est descendu au séjour des morts, puisqu'il avait été crucifié, déposé en un tombeau, est ressuscité pendant la nuit. Et que c'est au petit matin, lorsque Marie-Madeleine, seul ou accompagné, c'est là que commence la première divergence, se rend toute seule au tombeau et trouve que la pierre est roulée, et que le tombeau est vide. Il y a des apparitions, avant le Christ même, de deux hommes ou de deux anges, ou d'un seul ange, là aussi, divergence, évidemment,
ou pas d'ange
commenté,
du tout.
Ou pas d'ange du tout, parce que c'est le mot, d'ailleurs, chez Saint-Luc, c'est deux hommes, mais un peu plus loin, il transforme ce mot, il dit, les deux anges étaient apparus aux femmes qui s'étaient rendues, elles sont plusieurs, dans le récit de Saint-Luc. Mais la première évidence, c'est qu'il est vainqueur de la mort dans le temps des ténèbres. Et que lorsqu'elle se rende, ou qu'elle se rende toute seule, Marie-Madeleine, au tombeau, c'est pour accomplir les ultimes rites juifs, avec les aromates, parce qu'elles ont commencé le soir du vendredi, mais comme c'est la veille de Shabbat, il faut tout interrompre. Pendant le Shabbat, il ne se passe absolument rien du côté de l'entourage juif de Jésus, et elles attendent donc, comme les apôtres qui sont certainement eux aussi très, très angoissés de quel avenir elle leur est réservé. Personne ne suppose que le lendemain du Shabbat, en se rendant au sépulcre où a été posé le corps de Jésus, on ne l'y trouverait pas. C'est le contraire. Elles y vont pour faire les rites funèbres sur un cadavre. Et donc leur étonnement, leur effroi, leur déconcertation est parfaitement compréhensible. Voilà. Donc ça c'est très important, me semble-t-il, de dire il n'y a pas de spectateur, il n'y a pas d'observateur de la résurrection de Jésus. C'est le secret du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a été relevé, ou il est relevé, ou j'ai été relevé, dit Jésus lui-même, d'entre les morts, mais ça, l'événement lui-même n'est pas perceptible. C'est la conséquence. Maintenant, comme dit les deux hommes ou les deux anges dans le récit de Saint-Luc, pour rester sur celui-ci, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Donc il est vivant. Mais pour l'instant, il n'est pas apparu dans l'immédiate présence de Marie-Madeleine ou des autres femmes avec elle. Il ne leur est pas encore apparu. Il y a comme une espèce de transition, une annonce avec une parole pour dire il n'est pas ici, il faut le chercher ailleurs, il vous attend ailleurs. Et surtout, vous allez dire aux apôtres qui sont réunis, très craintifs, dans l'endroit où ils ont l'habitude d'être en prière, vous irez leur dire qu'il, lui, Jésus, les attend sur la montagne.
Monsieur le pasteur, ça c'est Saint-Luc.
Oui, là j'ai évoqué
qui dit
surtout
ça
Saint-Luc.
À Marie-Madeleine, oui. et aux saintes femmes.
Oui.
Hein, mais
elle est
Saint-Mathieu,
aussi sainte, elle est pas, elle aussi, vous avez, je vous taquine, vous semblez dire qu'il y a Marie-Madeleine et les saintes femmes. Elle fait partie du collège des saintes femmes.
Bien entendu, bien entendu. Mais Saint-Mathieu nous dit, raconte une autre histoire. Il dit, Marie-Madeleine, au petit matin, va au tombeau. La pierre est roulée. Et puis elle va tout de suite voir Simon-Pierre et Jean et leur dit « On a enlevé le maître ». Et là, Simon-Pierre, on connaît tous bien sûr cet épisode, Simon-Pierre et Jean court plus vite que lui, le laisse passer, Simon rentre dans le tombeau, Jean rentre à son tour et voit les linges rangés. Et là, c'est là où Matthieu dit il vit, il crut. Donc on sera ainsi bien différent. Il n'y a pas de, il y a d'abord Marie-Madeleine est seule, il n'y a pas d'ange, etc. Mmh. Comment t'expliquer? Il y a bien d'autres différences qu'on va évoquer en effet ce soir. Et puis il faut arriver à la première apparition qui elle ne fait pas de doute hein, selon vos explications, Monsieur le Pasteur.
Oui, ça c'est consensuel. Mais je vous reprends sur une chose parce que vos éditeurs vont s'empresser d'envoyer des courriels et de téléphoner. c'est pas dans le témoignage de Saint-Mathieu, mais ensuite de Saint-Jean ce que vous avez rapporté.
Ah mais non, c'est Saint-Mathieu. Pourtant c'est l'évangile de ce matin.
Chez
les catholiques qu'on l'a lu.
chez tous les chrétiens occidentaux, on lit dans l'évangile de Saint-Jean. Et
c'est Saint-Jean, vous êtes
oui, absolument,
oui,
parce que c'est parce que celui qui dit.
Raison,
il vit et il crut, oui. c'est justement le disciple que Jésus aimait,
oui,
et qui court plus vite que Pierre, etc. Donc, mais bon,
oui,
on a rectifié, donc personne, s'il vous plaît, n'envoie d'email contre
d'insulte.
M. Delcourt. Non, mais c'est important parce qu'il est témoin. À la différence peut-être des autres, qui ne sont pas dans la situation de s'être rendu au tombeau, lui, le disciple que Jésus aimait, est l'auteur de l'évangile que l'on appelle l'évangile selon saint Jean. Donc il est témoin direct.
Oui.
Et d'ailleurs, tout ce qu'il a raconté, il le dit expressément au moment de la passion, comme au moment de la résurrection, il dit « ces choses vous ont été racontées afin que vous croyiez ». Parce que moi, j'étais là, j'étais témoin. « Afin que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle ». C'est plus qu'une nuance, hein, y a une puissance dans le récit du disciple que Jésus aimait, parce qu'en fait, il restitue son espérance jusque-là déçue de l'accomplissement des promesses, et qui maintenant est accompli, et dont il constate la véracité, parce que les linges sont pliés dans le tombeau. Et que, effectivement, la pierre avait été roulée et que personne, les femmes, n'avaient pas la force de rouler la pierre comme on peut supposer qu'elle était.
Et comment t'expliquer que dans un cas, on évoque déjà, justement, soit l'ange, soit les deux hommes qui disent, qui mentionnent que déjà la résurrection du Christ, qui n'est pas dans Jean.
Peut-être parce que ni Marie-Madeleine, ni les autres femmes n'ont laissé le témoignage écrit de ce qu'elles ont vu. Ça a été raconté, et plusieurs fois, et ça a été surtout confié au premier groupe des disciples, pas seulement les apôtres, il y en a d'autres avec eux, à qui les choses sont partagées. Et peut-être ensuite, à la longue de transmettre ces récits, quelqu'un a retenu plus particulièrement que Marie-Madeleine y était, puis sans contradiction avec un autre témoignage, quelqu'un, par exemple Saint-Luc, a retenu qu'il y avait aussi Jeanne, et il y avait Marie de Jacques, et encore d'autres même, et c'est même en suspens, elles sont d'autres. Alors, c'est pas contradictoire, c'est comme si on se souvient 80 ans après de quelque chose qui nous a été raconté, parce que Marie-Madeleine nous raconte son instant, mais elle passe pas sa vie à raconter ces choses-là 80 ans plus tard. D'ailleurs, on ne sait pas où on peut quand même envisager, évidemment, qu'il y a une suite, et les chrétiens de Provence en sont très fiers, et sans doute à juste titre, avec l'arrivée de Marie-Madeleine sur les côtes françaises, et avec Lazare et sa sœur, leur sœur Marie. Mais une fois que les choses ont été dites pour convaincre les apôtres, l'essentiel, c'est qu'il est vivant et qu'il va apparaître à eux, les apôtres, et les envoyer en mission. Le tout premier événement est tellement intime. Vous rendez-vous compte que c'est juste une femme ou une poignée de femmes qui sont rendues à un tombeau, au lever du soleil, avec la crainte que ça suppose qu'il y ait des gardes chez Matthieu, vous savez bien, qu'il y a des gens qui peuvent regarder, soupçonner qu'elles vont faire des choses un peu bizarres, peut-être même va-t-on enlever le corps de Jésus. Saint Matthieu le fait rapporter aux chefs religieux d'Israël quand ils interpellent Pilate, et d'où l'envoi de gardes pour éviter que
on vole le corps
et que, alors, en plus ils vont dire qu'il est vivant parce qu'ils ont eux-mêmes volé le corps. Donc c'est secret, c'est des choses qui se font dans la pénombre. C'est pas un événement qui est connu à Rome à ce moment-là, hein.
Donc il y a bien un consensus, monsieur Pasteur, la première apparition du Christ, c'est à Marie-Madeleine.
Oui.
C'est donc lors d'une deuxième visite.
Alors voilà, elle va revenir. Et puis, alors ça dépend aussi des témoignages. Parce que, en fait, ce qui compte, c'est qu'elle va dire aux apôtres que le tombeau est vide. Donc, sous-entendu, s'il est parti, c'est qu'il est vivant. Alors, il est vrai qu'elle dit aussi, on ne sait pas où on l'a mis. Comme si quelqu'un était venu le chercher. Alors c'est comme si elle allait se renseigner. Mais alors, où est-il donc? Mais c'est-à-dire qu'elle resterait dans la logique de ce Jésus que nous avons aimé, en qui nous avons espéré quelque chose et qui nous annonçait qu'il serait crucifié et avec toute sa passion, etc., mais qu'il serait relevé le troisième jour, finalement. L'éclair de foi ne peut venir que par la visite au tombeau vide, une seule fois, par les apôtres, ou la confiance qu'ils ont de la parole des femmes. Moi, je trouve que c'est très beau que les évangélisatrices des apôtres, ce soit ce petit groupe de femmes qui étaient venues pour pleurer et pour embaumer ou pour répandre des aromates et qui n'en auront donc pas besoin. C'est peut-être même un raccourci saisissant que les pères de l'Église aimaient bien faire, hein. La petite boîte ou la grande boîte de myrrhe qui avait été apportée par les mages d'Orient au moment de leur visite à Jérusalem puis à Bethléem pour rencontrer le roi des Juifs. Cette petite boîte qui finalement n'aura pas servi parce que il est ressuscité, c'est-à-dire il a vaincu la mort. C'est intéressant, ces épisodes. Ils sont complexes si on essaye de les mettre en parallèle, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de concordance toujours. Mais le résultat est que les apôtres, finalement, vont croire. Et le déclenchement de leur foi, c'est le témoignage d'une ou de plusieurs femmes. Et puis ensuite, c'est deux d'entre eux qui s'y rendent, et il n'y en a qu'un dont il est dit qu'il croit. C'est Jean, Pierre, non? Ils s'en vont un peu, ils sont décontenancés, ce qui est bien normal. Comment aurions-nous réagi, nous qui aimons Jésus aujourd'hui? On aurait certainement été comme nous, on n'est pas meilleurs qu'eux. Et ensuite, ce sont les apparitions de Jésus au collège apostolique. Il les attend sur la montagne, ou bien il les visite le soir de Pâques avec l'histoire de Thomas, le dimanche suivant, etc.
Nous allons parler, bien sûr, en effet, de ces apparitions, quoiqu'il y ait aussi des questions sur la deuxième. Est-ce que c'est à Pierre, Simon-Pierre, ou aux disciples d'Emmaüs? C'est vrai, nous allons parler aussi de manière générale de ce temps pascal, hein, qui dure 40 jours, sur ce que fait Jésus durant ce temps pascal. Et il y a quand même néanmoins une question, parce que dès la première apparition, donc vous nous expliquez que le consensus se fait sur celle à Marie-Madeleine, elle croit que Jésus est le jardinier. Et ce qui est commun à ces apparitions, c'est que on ne reconnaît pas Jésus de prime abord.
Ah, c'est très important, ça.
Et ça, c'est très étrange, par exemple, nous allons bien sûr parler de cette apparition, la nouvelle pêche miraculeuse, Jésus est sur le bord du rivage... Les apôtres ne reconnaissent pas Jésus tout d'abord, c'est après. Emmaüs, c'est pareil, ils ne le reconnaissent pas, ils sont en chemin ensemble. Marie-Madeleine prend Jésus pour le jardinier. Oui, oui. C'est très étrange. Pourquoi, dans toutes ces apparitions du Christ, les personnes qui le rencontrent, qui ont côtoyé Jésus, pourtant, ne le reconnaissent pas?
Parce que, et là il y a une concordance, la vision... du Christ, de Jésus, restons avec le mot de Jésus pour l'instant, qu'ils avaient connu, n'est plus seulement ce qui est offert à leurs yeux et encore davantage à leur foi. Déjà, il y a une concordance. Vous voyez, tout à l'heure, on dit, c'est pas tout à fait le même récit, le moment où qui rencontre Jésus la première fois, il y a des anges en nombre ou tout seul. Bon. Là, ici, tout le monde est bien d'accord, d'une certaine façon, sans chercher à avoir ce consensus, mais tout le monde est bien d'accord qu'on ne le reconnaît pas. Que faut-il pour le reconnaître? Sa parole. Parce que c'est non seulement le Christ, le véritable Jésus, le crucifié. D'ailleurs, chez Matthieu, « Je sais, dit l'ange, que vous cherchez Jésus le crucifié. » Donc, on devrait reconnaître, il y a 3 jours seulement, qu'il a été crucifié, puis avec les plaies, on devrait même, ce serait suffisant, n'est-ce pas? C'est l'épisode, on va en reparler tout à l'heure, j'espère, de Thomas. Ça devrait être suffisant. Eh bien non, parce que son corps est devenu un corps transfiguré, c'est le corps de gloire éternelle, qui était le sien, sans doute, dans l'intention initiale du Père des Cieux, en l'envoyant dans l'incarnation. Et par conséquent, ce n'est pas le corps de Jésus qui est né à Bethléem, qui a été adolescent, qui a grandi, que les gens ont touché, rencontré, qui a mangé, dormi, etc., qui s'est promené, qui a souffert sa passion. C'est tout cela, mais ce n'est plus son corps. C'est le corps du ressuscité. C'est pas, on ne revient pas à un état antérieur. Pour notre propre résurrection, parce que c'est aussi une question qui est dépendante de celle-ci, avec quel corps allons-nous renaître? Est-ce que c'est quand on était ado ou quand on était des beaux jeunes gens, de beaux jeunes femmes? Et les gens qui ne sont pas arrivés à cet âge-là, alors ils ressuscitent au berceau? Bon, mais non, on ne va pas se poser ce genre de questions inutiles et vaines. Notre corps sera transfiguré à l'image de celui du Christ, le véritable Fils de Dieu. Nous ressemblerons, nous serons les enfants de Dieu en vérité, et donc avec un corps sublimé, on pourrait dire. Nos corps sont abîmés, de toute façon, parfois dans un absolu insupportable de la maladie, des handicaps, beaucoup de choses qui... Ou au contraire, on se maintient plutôt bien. Mais est-ce que vous croyez, nous les chrétiens, qu'on va ressusciter avec le meilleur aspect, où tout le monde pourra nous reconnaître parce que c'était le temps où on était beau ou jeune ou je ne sais quoi, ou en pleine force de l'âge? C'est autre chose. La résurrection de notre chair, comme a été autre chose la résurrection du Christ. C'est pas le retour au Christ d'avant la passion, c'est le Christ qui a assumé l'incarnation jusqu'à la passion, jusqu'à la mort, la mise au tombeau, sans que son corps fût altéré de quelque façon que ce soit, ni par le péché, ni par la mort, parce qu'on dit bien ça aussi dans l'Écriture, qu'il n'y a pas de commencement de dégradation du corps, mais il devient autre chose. Et ce corps-là, qui devient donc les corps glorieux, comme on dit avec Olivier Messiaen, si un jour on voulait qu'on fasse une émission musicale avec Olivier Messiaen, je vous conduirai à la contemplation avec Olivier Messiaen des corps glorieux. Le corps glorieux du Christ n'est pas perceptible, et souvent même Jésus interpelle les siens, les apôtres. Voyez, je ne suis pas un fantôme. C'est-à-dire, c'est pas une vision éthérée qui ne ressemble pas au Jésus précédent, mais c'est pas non plus le Jésus précédent. C'est un Jésus nouveau, vainqueur de la mort. Et la chose qui va faire basculer la connaissance et reconnaissance, c'est parce qu'il parle à chacun. Notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures? Thomas, est-ce qu'il faut le dire maintenant? Thomas, c'est parce que Jésus lui dit « Avance ta main et touche mes plaies ». Et c'est parce qu'il lui a parlé, ou la Marie-Madeleine, qui se laisse interpeller par son nom, Marie. Mm. Et alors elle dit « Rabouni ». Elle le reconnaît parce qu'il a parlé. Alors, ça dépasse le simple. C'est pas un bonjour qu'il adresse. Il peut dire bonjour aussi, bien sûr, mais c'est la parole créatrice. Mmh. C'est la parole qui remet dans la dynamique de la foi. Parce que et tout de même, Saint Jean, on a parlé du seul personnage qui voit et qui croit. Mais le verset qui suit, le il voit et il croit, quand il s'est accouru plus vite au tombeau. Car ils n'avaient pas encore compris l'Écriture qu'ils devaient se lever d'entre les morts. Eux n'avaient pas compris. Alors nous, si eux, les apôtres, Marie-Madeleine et tous les autres n'avaient pas compris qu'ils devaient se relever d'entre les morts, il faut bien qu'il y ait un déclenchement supérieur, et qu'il y ait la parole adressée avec une délicatesse à Marie-Madeleine, aux pèlerins d'Emmaüs, aux apôtres, à Thomas.
Mais nous allons parler de cette apparition aux pèlerins d'Emmaüs. Emmaüs, il leur parle, et malgré le fait qu'il leur parle, c'est seulement qu'à la fin, au moment de la fraction du pain, qu'ils le reconnaissent. Mais nous allons en parler. Alors, je vous propose d'aborder maintenant, puisque c'est le thème principal de cette émission, la deuxième apparition, la première étant, vous nous l'avez précisé, et elle fait consensus à Marie-Madeleine. La deuxième apparition, est-ce que c'est à Simon-Pierre qu'on s'est évoqué aussi, dans certains textes, ou est-ce Emmaüs?
Alors, Emmaüs, c'est le soir. Oui. C'est le soir. C'est-à-dire que c'est l'après-midi. C'est indépendant de Pierre.
Pierre, c'est le jour même, c'est dans Luc. Hein.
Ah, Pierre, c'est le matin.
Pierre, c'est le matin.
Voilà.
Il y a uniquement lui, ou il y a d'autres personnes avec lui?
Le petit passage dans Luc, le voici. Donc, les femmes sont arrivées auprès des apôtres, c'est Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres, avec elles, disent ce qu'elles ont vu, le tombeau vide, ce qu'elles ont entendu, avec le rappel, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs, il doit être mis en croix, et le troisième jour qu'il se relève. Maintenant, ils n'ont pas reçu cela comme une parole crédible, c'est du délire. Mais le mot grec dit c'est une niaiserie, c'est du délire. Ils ne les croient pas. Verset 12, dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 24. Tout de même, Pierre se lève, il court au tombeau, il se penche, il aperçoit, le verbe grec dit même, il regarde avec attention les linges qui sont seuls, qui sont posés dans un endroit. Il revient chez lui, étonné de ce qui est arrivé. Point final. Donc, ce n'est pas encore le déclenchement de la foi. Et là, je peux l'interpréter comme ça, c'est une intuition que j'ai à l'instant, là, c'est que sa foi doit être partagée avec le collège des apôtres. Vous voyez, Jean, le disciple que Jésus aimait, qui court plus vite, et c'est le même jour, mais c'est curieux qu'évidemment, je suis encore une fois d'accord avec vous, ça ne concorde pas, mais il n'empêche que dans l'autre témoignage, Pierre et Jean arrivent. Et il y en a un qui regarde, c'est Pierre, qui est interloqué, on va dire. Et puis Jean, qui voit et qui croit. Il rentre chez eux. Qu'est-ce qui va faire que vraiment le Christ ressuscité est reconnu? C'est la foi des apôtres. La foi, allons plus loin, de l'Église. C'est-à-dire, c'est pas une personne ou l'autre qui a le privilège de rencontrer Jésus ou de s'approcher, de comprendre ou ne pas comprendre. C'est quand ceux qui auront la mission d'apporter l'évangile seront ensemble, que alors il sera reconnu, aimé, bien sûr, aimé à nouveau, ou aimé avec le surplus de sa résurrection, et partir en mission. Ce que je veux dire, c'est que la foi de Pierre, ou la foi de Jean, ou la foi de Marie-Madeleine, ou de Jeanne, et parce qu'il ne faut pas les oublier, les autres, la Marie et mère de Jacques, d'une certaine façon, mais je le dis avec beaucoup de délicatesse, j'espère, ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait la foi de l'Église. Jésus va réserver au collège des apôtres, donc le soir de Pâques, le retour des rencontres, parce que c'est eux, les apôtres, qui sont bénéficiaires de la première fois de l'information des pèlerins d'Emmaüs, de Marie-Madeleine, de Marie, de Jacques, etc. C'est eux. Elle ne crie pas dans les rues. C'est pas les bergers à Noël qui vont dire à tout le monde que le Sauveur est arrivé. Elles vont aux apôtres. Vous voyez, elles ont l'intuition très sûre que elles, comme les pèlerins d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs, doivent apporter d'abord ce témoignage à l'Église. Enfin, ce qui devient l'Église à ce moment-là. Parce que le Saint-Esprit va les rassembler dans la chambre haute, ou en tout cas là où ils ont l'habitude d'être enfermés par crainte des Juifs, de surcroît. Et c'est là, ou sur la montagne quand il part à l'ascension, Jésus, c'est quand ils sont ensemble qu'il y a vraiment la connaissance du ressuscité, le vivant, et le commencement de la mission, et donc de ce qui doit être la foi, non d'une ou de l'autre personne, ce ne sont pas des individus personnellement, qui nous ont apporté le témoignage véridique, c'est la primitive Église.
Donc on peut dire que la deuxième apparition, c'est aux disciples d'Emmaüs.
Oui, c'est le soir, c'est un très très beau récit.
L'après-midi et le soir, nous allons en parler, bien sûr. Hein, ouais. Et puis après... les disciples d'Emmaüs retournent à Jérusalem.
C'est très beau ça.
Et c'est à ce moment-là que le Christ apparaît aux apôtres.
Alors, moi j'ai l'habitude de dire... D'abord, ils racontent, eux aussi,
oui, comme les femmes. Ils ne sont pas forcément crus, d'ailleurs, nous allons en parler. On va commencer. Et le Christ apparaît aux apôtres pour la première fois ensemble, après ou avant la visite des disciples d'Emmaüs? Après.
Après.
Après, c'est ça. Donc, on peut vraiment dire que la deuxième manifestation, enfin, apparition du Christ, de Jésus, c'est aux disciples d'Emmaüs, après Marie-Madeleine.
Oui.
On peut le dire. Alors, je vous propose, monsieur le pasteur, que vous nous parliez, en effet, de cette apparition, qui est, elle aussi, très, très étonnante, parce que ils ne reconnaissent pas Jésus, hein, ils marchent avec Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Et d'ailleurs, dans le texte, ils ne comprennent pas non plus pourquoi il fallait que le Christ souffrit avant de périr et de ressusciter.
C'est comme une pédagogie de Jésus qui ne se laisse justement pas reconnaître immédiatement afin qu'il y ait en eux, les deux personnages qui s'éloignent de Jérusalem, ce qui n'est pas rien, renoncent à leur tristesse, à leurs angoisses, à leur déconcertation. Imaginons que ce soit dès le début, ils reconnaissent Jésus, formidable, etc. Mmh. Mais quoi donc? Alors, eux, ils ont un voyage à faire, quelqu'un les rejoint, et tout de suite, il ne se passe rien, finalement. Si Jésus n'avait pas cheminé avec eux, en n'étant pas reconnu par eux, je crois qu'il n'y aurait pas eu l'accomplissement total de ce qu'il voulait pour eux. Et je vous ai dit aussi tout à l'heure que c'est sa parole qui provoque la foi de ceux, comme après Thomas, ou comme avant Marie-Madeleine, la compréhension, l'accueil qu'il est ressuscité. Quand il leur parle, c'est une parole qui n'est pas personnelle. Il leur explique les Écritures. C'est un enseignant, C'est un rabbin qui dit ben, les choses sont annoncées comme ça chez les prophètes, dans la loi de Moïse, etc. Voilà ce qui devait arriver pour ce personnage-là, puisque vous en parlez. Eux en parlent, bien sûr, en disant nous avions cru en lui, nous l'aimions, etc. Mais voilà, c'est fini, il est dans un tombeau, et il y a bien des femmes qui disent enfin bon, c'est du radotage de bonnes femmes, bon voilà. Et eux les prennent au mot, en quelque sorte. Ah bon ? Eh bien, je vais vous expliquer que ce personnage dont vous parlez, ce Jésus, selon les Écritures, il devait souffrir sa passion et ressusciter. Et ce n'est pas encore suffisant, parce que, me semble-t-il, parce que Saint Luc va initier ce qui pourrait bien être la première Eucharistie, après le repas, bien sûr, d'avant la passion, qui est l'institution. Mais... quel est l'autre mode de présence de Jésus que sa parole dans l'Église ? Le sacrement. Les sacrements, même de manière générale. Mais bon, ce n'est pas non plus un catéchisme résumé dans le final de Saint-Luc. Et d'autant qu'aucun des évangélistes, ni aucun des auteurs du Nouveau Testament n'établit exactement que la doctrine de l'Église doit contenir 3, 12, 7 sacrements, etc. Il va se faire reconnaître d'eux à la fraction du pain. Et à ce moment-là, il disparaît. Et c'est très intéressant, parce qu'il était avec eux pendant plusieurs heures, c'est la nuit, ils le retiennent, le jour tombe, etc. Reste avec nous, ils vont à l'auberge, c'est très pragmatique. Hein. On va peut-être se poser là pour la nuit, et puis on va faire un petit gueuleton avant pour se réconforter. Quoi. Disons les choses comme ça, triviales, parce qu'elles se sont passées d'une manière... c'est la rencontre de trois personnages, un qui console et deux qui sont tristes. Hein. Mais quand la fraction du pain a lieu, il disparaît parce que justement, c'est la parole maintenant et cette proposition de le trouver désormais dans un pain partagé, et pas n'importe lequel, puisque c'est le pain de l'Eucharistie. En tout cas, il y a ici une formule, la manière dont Jésus rend grâce au Père en faisant cela, signale, et le fait de fractionner aussi, signale que c'est un écho, pour le moins, de l'institution eucharistique. Donc, les modes de présence maintenant, c'est pas de voir Jésus, de vous reconnaître, ah oui, c'est bien de Jésus qu'on a connu avant, quand on était avec lui dans sa jeunesse, ou après, à Jérusalem, on l'écoutait dans le temple, etc. Non, ou sur la croix, on l'avait vu, non, c'est Jésus qui est présent par la parole. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ? Donc il faut sans cesse revenir aux Écritures qui sont l'Ancien Testament. Et les sacrements, les modes de présence où Jésus se donne en vérité et où n'a plus besoin d'aller regarder à quoi ressemble le corps du ressuscité. Le Seigneur Jésus est présent autrement.
Mais monsieur le pasteur, ils reconnaissent le Christ à la fraction du pain.
Oui.
Et pourtant, il n'était pas à la scène. La scène, le jeudi soir, il n'y a que les apôtres.
Mais c'est pas, il ne refait pas un repas juif.
Non.
Il partage du pain avec eux.
Simplement... Est-ce que le Christ prononce une parole particulière lorsqu'il rompt le pain avec eux ?
Il rend
comme
grâce.
Comme s'il célébrait une nouvelle scène.
Non, moi je ne crois pas. Je pense qu'il... c'est même un autre angle d'approche pour moi. C'est la défiguration du Christ. Parce que il ne sera plus présent comme un être que l'on reconnaît de l'incarnation. Il sera présent sous le mode sacramentel du pain partagé entre les croyants qui véhicule sa présence véritable, en même temps que la parole. Il ne pratique pas le repas juif du jeudi saint, là, c'était un repas juif, dans lequel Jésus fait une transformation extraordinaire en disant « ceci est mon corps, ceci est mon sang », évidemment.
Ça, Jésus ne le fait pas, simplement il prend
pain. Parce qu'il n'y a que le pain.
Oui.
Et donc c'est pas...
Et ça suffit pour eux pour qu'ils le reconnaissent. C'est ça qui est étonnant.
Oui. Ils le reconnaissent parce que, à ce moment-là, s'éveille en eux une compréhension qui n'a plus besoin de constater que Jésus est ressuscité. C'est-à-dire qu'on est passé à autre chose, c'est plus loin, c'est plus haut.
Oui.
Et moi, je suis très frappé en particulier que ça se passe le soir, cette affaire-là. C'est la nuit. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils ne se restent pas dans l'auberge, attendant le petit matin. Ils vont retourner à Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dire au collège des apôtres.
Alors, nous allons, monsieur le pasteur, nous allons parler, qui ne va pas les croire d'ailleurs. Certains les croiront et d'autres pas. Monsieur le pasteur, de Jérusalem à Emmaüs, il y a, c'est 4 heures à peu près à pied, je pense. Hein, à peu près. Au moins 4 heures.
Ouais. Hein. Et donc?
Et donc ils vont refaire le même trajet dans l'autre sens. Mais la question que je voulais vous poser, c'est qu'ils ont...
Je veux revenir là-dessus, si vous voulez bien.
Oui, bah revenez, allez-y, je vous reposerai ma question après.
Parce que précisément, pour ceux qui ont du pèlerinage, ils se rendent dans une petite ville qui est à 4 heures de route, si l'on veut, ou un peu moins.
Bon, c'est peut-être plus.
Je ne crois pas, parce que ce serait beaucoup. L'essentiel, c'est qu'ils ont cheminé avec quelqu'un qui rumine l'écriture pour eux, qui essaye d'éclairer l'écriture. Et puis, le déclenchement de la foi, c'est à la fraction du pain, c'est-à-dire à sa disparition.
C'est ça.
Et alors, à ce moment-là, dans leur cœur, s'éveille le sentiment que c'était bien lui et qu'il expliquait les écritures. Donc, on le connaît maintenant par la fraction du pain et par l'explication des écritures. C'est-à-dire par les deux services de l'Église, en l'occurrence, la prédication et les sacrements de toutes les églises. Ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est qu'ils n'attendent pas le petit matin pour rentrer à Jérusalem. Mais ils y arrivent le petit matin. Parce que la nuit tombe, n'est-ce pas? La nuit tombe. Et c'est bien pour... Reste avec nous, le soir décline. Et donc il accepte. Il fait mine d'aller plus loin et il accepte. Et alors si vous dites qu'il y a 4 heures de route,
Il y a une vingtaine de kilomètres de mémoire entre Jérusalem et Emmaüs. Enfin, le lieu-dit supposé Emmaüs, parce que...
Oui, c'est ça. Où il y a un monastère, d'ailleurs, à l'emplacement. Mais maintenant, celui qui aimait beaucoup le cardinal Stiger, là, à Bougoche, je crois que c'est cet endroit-là. Hein. Mais l'essentiel, c'est qu'ils vont retourner. Ils avaient un programme. Parce que pourquoi ils vont à Emmaüs? C'est pas une promenade de santé. Ils ont quelque chose à y faire. Ils partent pour quelque chose. Ils rentrent chez eux, ils ont des affaires, bon, peu importe. Mais non. Là, en pleine nuit, ils repartent tout de suite.
Ouais.
Et quand ils arrivent, c'est quoi? Moi, je suis convaincu que c'est l'aube. C'est le lendemain.
C'est logique.
Même aube que celle que les femmes ont connue pour se rendre au tombeau. Et là, en arrivant donc au lever du soleil, et vous imaginez aussi toute cette symbolique de spiritualité, le lever du soleil de justice qui va éclairer maintenant... Non pas depuis Emmaüs ou depuis le tombeau vide, mais bien depuis le collège apostolique, depuis l'Église. Le soleil de justice est transporté comme avec eux. Il va se lever progressivement avec ces deux-là jusqu'aux retrouvailles, puisqu'il est bien dit qu'ils se lèvent à l'heure même, ils reviennent à Jérusalem, ils trouvent groupés les 11 et ceux d'avec eux qui disent « En réalité, le Seigneur s'est réveillé, il a été vu par Simon ». Il a été vu, pas beaucoup plus, et eux aussi racontent ce qui est arrivé sur le chemin et comment ils l'ont connu au partage du pain. Ils parlent encore, lui-même se tient au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ».
Donc c'est en présence aussi des idées.
Vous voyez, ils ont emmené Jésus, comme certaines façons, avec eux, dans leur cœur brûlant d'amour pour lui, et comme reconstitué, comme façonné, comme structuré par la manière dont il leur a expliqué les Écritures, Moïse et les prophètes.
Alors merci, monsieur le pasteur, de nous remettre la chronologie, en effet, de ces apparitions. J'aimerais vous poser encore quelques questions sur Emmaüs, si vous le voulez bien, une ou deux questions. Et puis je crois que vous nous avez préparé une pause musicale, on sera l'occasion d'écouter aussi le message de la radio, une pause musicale de Bach, justement, sur Emmaüs.
Hein,
mais alors, j'ai encore une ou deux questions à vous poser sur Emmaüs, si vous voulez bien. Le texte d'Évangile qui raconte donc cette rencontre du Christ avec les disciples d'Emmaüs disent finalement qu'ils ne comprennent pas pourquoi il fallait que le Christ souffrît avant de périr et ressusciter. Que leur dit le Christ pour leur expliquer cela?
Alors, non, non, pas le contenu de l'exégèse que le Christ a fait au pèlerin d'Emmaüs en route, là, évidemment, mais c'est à l'Église de le faire maintenant, ou à saint Paul qu'il a fait oui. suffisamment pour nous, et tous les autres apôtres dans leur témoignage. Il y a nécessité que Jésus aille vaincre la mort, et la regarde en face, et ce soit pas simplement du symbolisme, ou qu'il fasse semblant d'être mort, et puis, voilà, ou des substitutions, je ne sais quoi. Et il faut vraiment que Jésus offre sa vie. Il donne sa vie. C'est une nécessité absolue. Ça fait pleurer les anges dans le ciel et nous peut-être sur la terre, mais il faut que Jésus meure, soit mis au tombeau, visite le séjour des morts et ressuscite le troisième jour, parce que la volonté, la puissance de volonté de Dieu est dans ce projet d'amour. Il faut que la mort soit vaincue par la vie de lui, Jésus, le crucifié. Vous avez bien entendu dans Matthieu, on l'a rappelé tout à l'heure, « Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. » Nous aussi, il faut que nous cherchions Jésus le crucifié, mais nous ajoutons le ressuscité, le vivant. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Mais il est mort véritablement, il fallait qu'il meure. C'est le projet de Dieu, alors c'est un grand mystère. Bien sûr, on peut être choqué. Beaucoup de chrétiens même sont choqués. Pourquoi fallait-il qu'il souffre comme ça? Et quand on pense à sa mère et tous ceux qui l'ont aimé, etc. Pourquoi fallait-il? Ben, c'est le secret de Dieu, mais en tout cas, c'est cela. Et pas des illusions ou des images approximatives qui nous sauvent.
Il reste quand même une part d'incompréhension. Oui. Hein, malgré oui. justement cet enseignement du Christ à travers ces différentes apparitions que nous commençons, oui. que vous commencez à évoquer, à nous expliquer, le mystère n'est pas totalement résolu. Hein.
Et il est fort heureux que nos pères, les saints apôtres et les saintes femmes, aient été eux aussi troublés par cela. Il n'y a pas d'évidence. C'est un mystère d'amour. Et Dieu s'y est pris de cette façon-là, à nous de le contempler, d'y réfléchir pendant toute notre vie, finalement, autant qu'il est possible. Les saintes femmes et les saints apôtres et leurs continuateurs, tous les prédicateurs, prédicatrices de toute l'Église, tous les témoins, doivent prendre la route du retour d'Emmaüs vers Jérusalem pour se laisser éclairer par le soleil de justice qui s'est levé sur nous.
Alors, Monsieur Pasteur, vous êtes aussi le parrain du Festival du Beau, événement qui promeut peut-être un peu l'unité chrétienne.
Oui.
À travers
que vous ameniez ça maintenant.
Avant de passer à votre premier choix, justement, je voulais vous poser cette question sur la représentation dans l'art
oui.
de cette.
Épisode, oui, c'est intéressant parce que moi je vous ai.
Des disciples d'Emmaüs. Quelle représentation artistique souhaiteriez-vous mentionner?
On n'a pas préparé, surtout pour les auditeurs, c'est pas évident, n'est-ce pas? Mais sinon, c'est bien sûr Rembrandt. Oui. Il y a deux Rembrandt, hein, un au Louvre, un Jacques Marandré.
Il y a deux Emmaüs.
En tout cas, en France, dans les collections françaises, il y a celui du Louvre et celui de Jacques Marandré. Mais d'une manière générale, on n'a jamais osé représenter le moment où il disparaît, en fait. On le représente toujours au moment où il va rompre le pain. Et je vous ai dit tout à l'heure, parce que je trouve que c'est une idée à creuser, à explorer, que c'est le moment de la défiguration. La défiguration de celui qui vient nous consoler et dont l'histoire de l'incarnation se termine là. Parce que maintenant, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est nous. C'est nous. Et dans le fond, les œuvres de Rembrandt et toutes les autres hein, sur la vie de Jésus et cet épisode spécialement sont belles, magnifiques, nous touchent, etc. etc. On peut faire des commentaires à l'infini sur les peintres et les circonstances de leur art. Mais n'y a-t-il pas justement à chercher cette défiguration du Christ qui est finalement la restauration de notre figure d'enfant de Dieu. Notre figure restaurée d'image et de ressemblance de Dieu, qui est la figure originelle de nos premiers pères, Adam et Ève, et dont tout est rétabli en beauté, et même en une beauté supérieure, puisque elle est semblable à celle du Christ. Donc, c'est peut-être un peu étonnant ce que je dis là, mais pour moi, bien sûr, c'est très important de voir des images du Christ, jusque même le suaire, je crois volontiers que c'est la trace de son corps, mais il est plus interpellant, il est plus pertinent pour notre foi de ne pas avoir son image du soir d'Emmaüs. Son image maintenant, elle est en nous, c'est la restauration de notre propre image d'enfant de Dieu dans l'Alliance, et les deux modes de présence de cette figure sont la réception de la parole de Dieu, qui est puissante pour créer des êtres nouveaux, et le sacrement de l'Eucharistie. Et je vous le dis en tant que chrétien luthérien, et dans le fond, il n'y a presque rien à voir, puisqu'on voit les espèces de le calice et le pain, bien sûr, mais dans le fond, on ne nous offre pas à regarder une image de Jésus, ou à simplement baiser une image de Jésus. Le baiser de paix, on peut le faire avant avec une petite image de Jésus, comme ça se faisait beaucoup dans l'ancien temps. Les baisers de paix, comme on dit, où les orthodoxes l'ont gardé, je crois. Mais ce n'est pas la communion, ça. C'est comme la préparation. Et après, il faut que cette figure disparaisse pour qu'elle soit présente sous un autre mode, et c'est le mode de la vérité de sa vie. On n'est pas au musée, ni même simplement à regarder les beautés extraordinaires qui remplissent nos églises. Lui veut remplir notre cœur, et les pèlerins disent « Notre cœur ne brûlait-il pas d'amour lorsqu'il nous parlait ?» Et maintenant, ils repartent très heureux. Et nous aussi, on est heureux de ne pas voir Jésus historique, vérifiable. C'est un Jésus de la foi de l'Église, un Jésus de sa parole et du sacrement.
Monsieur le pasteur, je vous propose une première pause musicale avec Jean-Sébastien Bach. Donc, je vous laisse expliquer votre choix.
C'est un extrait de la cantate pour le lundi de Pâques de 1725, composé donc par Jean-Sébastien Bach, Johann Sebastian Bach, Bleib bei uns, denn es will Abend werden, reste avec nous car le soir arrive. Et j'ai choisi le choral qui est au numéro 3 dans l'ensemble de la cantate. Une cantate, vous savez, c'est une pièce de musique destinée à la liturgie des églises luthériennes au XVIIe et XVIIIe siècle, et Bach doit en produire là où il est, à Leipzig. Et cette musique, elle commente les évangiles du jour, etc. Et il y a une sorte d'alternance de chœur, d'air, et au centre, un petit récitatif qui fait la liaison de l'ensemble du récit. C'est autour de cette retenue que l'on aimerait que Jésus reste avec nous, parce que le soir, alors on peut dire les ténèbres, hein, le monde obscur qui nous entoure, les choses difficiles, reste avec nous, Seigneur, viens, interviens. Voilà. Alors le numéro 3 que j'ai choisi, c'est un choral, comme on dit, c'est un petit cantique spirituel qui est chanté seulement par une voix, la voix de soprane, et accompagné par deux instruments. C'est très subtil, très fin comme pièce que je vous fais entendre. Donc la voix de soprane avec violoncelle piccolo et le continuo. Le continuo, c'est en général le clavecin.
Piccolo,
violoncelle, c'est un des noms qu'on donne au violoncelle à l'époque. Moins imposant que le violoncelle romantique, on dira. Ar bleib bei uns, Herr Jesus Christ. Alors je vais dire en français la suite. Ah, reste avec nous, Seigneur Jésus, car le soir est maintenant venu. Ta divine parole, ta claire lumière, ne la laisse pas s'éteindre chez nous en ce temps de grande affliction. Accorde-nous, Seigneur, la constance, afin que nous conservions pure ta parole et ton sacrement jusqu'à notre fin. Heint behalten bis an unser end. Le dernier mot, c'est fin. Comme le dernier mot du verset précédent, c'est sacrament, et etc. Alors, laissez-vous toucher par c'est cette sorte de longue guirlande qui va accompagner la voix de soprane. Certains d'entre vous reconnaîtront qu'il y a une autre version de cette mélodie qui n'est pas de Bach à l'origine, une mélodie du XVIe siècle, mais qui, bien sûr, il transpose et illumine d'une certaine façon dans sa cantate. Reconnaîtront dans les chorales Schubler pour orgue. Voilà, alors c'était une interprétation de l'excellente formation, le Bach Collegium Japan, sous la direction de Masaaki Suzuki.
Le texte est de Luther?
C'est un texte de Philippe Melanchthon, le disciple de Luther. C'est un petit choral qui est déjà dans la tradition luthérienne. La plupart du temps, quand il y a un chant comme ça d'église, il vient effectivement du patrimoine, du répertoire ancien, et bar l'amplifie oui. musicalement. Hein, voilà. Et là, c'est pas un chœur, hein, c'est juste le texte du cantique avec la voix de soprane et le violoncelle.
Très bien.
Pour le lundi de Pâques.
Alors nous écoutons, après avoir écouté le message de la radio.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette émission consacrée à Pâques et plus particulièrement aux apparitions de Jésus après Pâques, après cette première apparition qui fait consensus, qui est celle de Jésus à Marie-Madeleine, et en compagnie du pasteur Joly, qui ainsi nous explique l'importance et le message de chacune de ces apparitions agrémentées, illustrées par ces merveilleux extraits de la musique de Jean-Sébastien Bach, dont il est en effet un des spécialistes, et il nous a fait là écouter un extrait musical qui illustre parfaitement, puisque son titre est Bleib bei uns, reste avec nous, effectivement, cette rencontre du Christ. Voilà, avec les disciples d'Emmaüs. Monsieur le pasteur, j'ai des questions, il y a de nombreuses questions d'auditeurs. Merci, chers auditeurs, effectivement, de vous intéresser ainsi au thème de cette émission. Donc, je lis les questions d'auditeurs, monsieur le pasteur. J'ai entendu dire, nous dit une auditrice, que lorsque nous serons au paradis, nous aurons tous l'âge de 33 ans.
Ah bah écoutez, je ne sais pas, c'est pas très... cette uniformité n'est pas très réjouissante, je trouve. Je ne sais pas d'où ça sort, cette... oui, je respecte ce que ça a été dit autrefois, oui. Mais je ne sais pas d'où ça vient.
Et, parce que le Christ est ressuscité à 33 ans.
C'est l'âge de la passion.
C'est ça.
Et ça, c'est tout à fait clair avec le témoignage d'Écriture, mais il n'y a aucune source de l'Écriture sainte qui nous affirme une chose comme cela. Je n'ai rien d'autre à dire, sinon que je suis un peu monotone. Si tout le monde a 33 ans. Alors, mais symboliquement, ça dit beaucoup de choses. Je veux bien tout de même reconnaître que ça signifie qu'on est ajusté à la stature du Christ. Et ça, c'est une image, c'est une façon de parler de saint Paul, grandir à la stature du Christ. Et qu'effectivement, l'être intérieur peut avoir les 33 ans du Christ ressuscité. Voilà. Mais pas le corps physique, d'autant qu'il y a parmi nous des gens qui n'atteignent pas l'âge de 33 ans. Alors, ils auront donc vieilli au paradis.
Nous avons aussi un autre message de l'auditrice. Pensez-vous que l'on puisse comparer la résurrection du Christ à celle de Lazare?
C'est une préfiguration, mais ce n'est pas du tout la résurrection semblable à celle du Christ, parce que Lazare est mort à nouveau. Lazare est ressuscité avec son corps, et lui, il est reconnu tout de suite.
Il n'y a aucun problème.
Et puis, tout à coup, il est avec tous ses amis, avec ses sœurs, etc. Et donc, c'est un signe que Jésus pose et qui doit susciter la foi. Et c'est ce qui se passe avec les sœurs de Lazare. Pardon. Et cette résurrection, elle est pour la gloire de Dieu, mais elle n'est que temporaire. Tandis que celle de Jésus est pour l'éternité, et celle qui sera la nôtre aussi, en lui.
Voilà. Connaît-on les circonstances de la mort, deuxième mort de Lazare? Parce que dans les textes, il est écrit que les pharisiens cherchaient aussi à tuer Lazare, parce qu'il avait été ressuscité peu de temps d'ailleurs avant la Passion. Je crois que c'est deux semaines ou peu de temps. Les Juifs cherchaient à tuer Lazare parce qu'il avait été ressuscité par le Christ, comme un témoignage très, très gênant.
Oui, c'est très embarrassant pour eux, et comment Jésus ait ressuscité Lazare. Mais je ne sais pas quel mot faut-il employer exactement. C'est un mi-chemin entre l'histoire et la légende. En tout cas, pour les chrétiens de Provence, c'est une chose importante que Lazare, Marthe et Marie ont débarqué sur la côte provençale.
En frères et sœurs, en fait.
Ah oui, de toute façon, ce sont des frères et sœurs, déjà, au témoignage de l'Écriture. Il n'y a pas d'ambiguïté
là-dessus. Voilà, non, mais c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est la famille qui débarque, en quelque sorte.
Ils arrivent en famille, absolument. Et voilà, puis là, ensuite, toute cette tradition, en tout cas, de vénération de Saint-Lazare jusqu'à Autun. La cathédrale d'Autun avait le corps de Saint-Lazare jusqu'à la Révolution. Il y a sûrement des épisodes qui racontent son évangélisation sur ces terres de la Gaule romaine, avec Marthe et Marie, avec Marie-Madeleine aussi, vous savez, on raconte ces choses. Mais c'est pas là, pour moi, je crois qu'il faut s'en limiter ce soir, en tout cas au témoignage de l'Écriture sainte. C'est pas raconté, ça veut pas dire que ça n'a pas lieu, je dis pas cela. Mais je dis, c'est pas dans l'Écriture sainte, ça n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour conforter notre foi. Voilà.
Une auditrice, dans un corps glorieux, les fonctions physiques subsistent-elles puisque le Christ a mangé?
C'est une très intéressante remarque, très subtile. Parce qu'effectivement, Jésus va manger du poisson et du pain avec ses disciples, plusieurs de ses disciples, en particulier au bord du rivage. Et lui-même préparait d'ailleurs le poisson. Il ne sait même pas le poisson de la pêche qu'eux sont en train d'essayer de ramasser. C'est lui qui a préparé du poisson sur le rivage. Et il en mange avec eux. Et d'ailleurs, c'est la preuve, voyez que je ne suis pas un fantôme, je touchais mon corps, etc. Je mange avec vous du poisson et du pain. Mais c'est un Jésus ressuscité, c'est vrai. J'ai parlé de corps glorieux tout à l'heure. Mais peut-être y a-t-il un état transitoire dans ces moments d'apparition, c'est-à-dire dans les 40 jours qui ont suivi Pâques, si on suit le témoignage de certains des évangélistes et des actes des apôtres, ou le soir même de Pâques, si on s'en limite à un autre, dans tous les cas, au ciel, ça ne sert plus à rien de manger, ni même d'avoir d'autres fonctions, par exemple le sommeil, ou d'autres... Voilà, l'évolution corporelle n'est pas en jeu dans l'état d'éternité. L'évolution corporelle est liée à la génération mortelle. En fait, ce qui fait que il n'y a plus d'altération, il n'y a plus de mort, et donc il n'y a plus de croissance ni de décroissance, c'est l'entrée dans la vie éternelle. Or, si nos corps ressusciteront, encore glorieux, c'est pour être dans la vie éternelle avec Dieu, pas pour recommencer une vie avec les misères et les gloires de notre existence commune, ordinaire.
Et pourtant, Jésus demande aux disciples de la nourriture, cette apparition, oui, la troisième apparition, donc celle au soir de Pâques.
Oui, mais c'est parce qu'il faut absolument...
Des disciples, là, ils demandent de la nourriture, oui, ils la consomment.
Oui, parce qu'il
faut... Y a-t-il un sens intentionnel à ça ?
Bien sûr, il faut absolument qu'il soit convaincu que c'est lui, c'est sa personne, c'est pas une vision, il l'a dit lui-même, c'est pas un fantôme, c'est pas une projection, c'est pas comment on appelle ça, là, quand M. Mélenchon se transporte dans un théâtre...
Hologramme.
Hologramme, voilà. Excusez-moi d'avoir cité ce personnage. on n'est pas dans ce registre-là. C'est une personne qui ressuscite. Ils ne le reconnaissent pas parce que j'ai dit, et à sa parole qui s'adresse personnellement à ceux envers qui il éveille la foi. Puis ensuite, c'est l'Église. Mais dans ce laps de temps très court... pour les convaincre que ce n'est pas une illusion, que ce n'est pas leur fantasme qui se projette sur une apparence, mais que c'est bien lui, il faut qu'il soit dans un état de réalité qui corresponde à ce qu'il était avant. Et il y a deux choses. Il y a le fait qu'il mange, si on ne dit pas qu'autre chose, par exemple, on ne dit pas qu'il va se retirer pour prier ou dormir, comme il y a eu d'autres passages où c'est comme ça, avant la croix. Et puis, son autre mode de présence, c'est de laisser voir ses plaies. Et c'est en particulier l'épisode avec Thomas.
Oui, alors nous allons bien sûr en parler. Encore une question d'une auditrice toujours. Est-ce que les luthériens croient à la transsubstantiation ?
C'est notre débat du XVIe siècle entre l'Église de Rome et l'Église qui s'en est séparée sous la conduite de Martin Luther et des princes allemands, et qui donc aujourd'hui forment la communion luthérienne. L'Église romaine professe la doctrine de la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation des espèces du pain et du vin à l'autel en véritable corps et sang de Jésus, et donc il y est substantiellement présent. Alors que nous, les luthériens, nous avons fait un choix avec le réformateur, au XVIe siècle, c'était déjà un débat du Moyen-Âge, c'est pas une invention, c'est un débat déjà entre les théologiens et certains évêques. Nous avons fait le choix de parler de consubstantiation. Et dans consubstantiation, le début du mot, c'est cum, avec, ça veut dire que les deux substances coexistent, le pain et le vin qui restent du pain et du vin, on en voit l'apparence et la réalité, et c'est devenu, parce qu'on a appelé le Saint-Esprit et que par la foi nous croyons que ce sera cela, c'est devenu le vrai corps et le vrai sang de Jésus. Alors la différence, c'est donc un mode de présence, transsubstantiation pour l'Église de Rome, consubstantiation pour les églises luthériennes. Il y a encore d'autres interprétations hein, qui sont plus spiritualisantes, on va dire, surtout chez d'autres protestants, par exemple les anglicans, qui sont aussi un petit peu improbables sur cette question. Mais nous, les luthériens, nous disons que le Christ est vraiment spirituellement présent dans, sous et avec les espèces du pain et du vin consacrées à l'autel par un ministre ordonné. Ça veut dire que c'est très proche de la transsubstantiation, mais nous ne considérons pas que l'hostie et le vin se soient transformés et qu'il n'y ait plus qu'une apparence. Voilà. Mais je précise quand même que c'est une considération de catégorie très scolastique, très médiévale. Luther s'est positionné par rapport à la foi de l'Église de son temps, peut-être pour rendre plus accessible la compréhension de ce repas, de l'Eucharistie. Aujourd'hui, peut-être qu'on se serait positionné autrement que sur la scolastique qui considère les choses de manière sensible. C'est-à-dire qu'il y a une charge matérielle dans ce manière de raisonner. Dans l'Antiquité chrétienne, par exemple, 3e, 4e, 5e siècle, on ne parle pas de ça, ni de transsubstantiation, ni de consubstantiation. On parle du pain et du vin partagés selon le commandement du Christ, etc. Le Christ est vraiment présent, ne doit être donné qu'à ceux qui sont préparés, qui ont fait pénitence, etc. Mais on ne se préoccupe pas de savoir quel est le mode de présence, à quel moment il arrive, etc. Est-ce que ça transforme les espèces, etc. C'est vraiment une considération fin Moyen-Âge, début 16e siècle, alors qui est fixé ensuite, hein, Luther et la suite, les théologiens après lui qui fixent les choses pour l'ensemble des églises, et puis bien sûr le Concile de Trente. Peut-être qu'aujourd'hui il faudrait revisiter, hein, je ne dis pas qu'il faut renoncer à ces doctrines, mais les revisiter, essayer de les harmoniser. Voilà. La chose la plus importante, si l'auditrice veut bien nous considérer avec bienveillance, c'est que nous croyons, les chrétiens luthériens, à la présence de Jésus dans la célébration de la Sainte Communion. Voilà, nous prenons le respect absolu de ce qu'il est, et on ne s'approche pas cavalièrement de l'Eucharistie. Il est vrai qu'il y a d'autres protestants qui professent autre chose, hein, mais les chrétiens luthériens, nous nous sentons très proches de vous, les catholiques, de ce point de vue, entre autres.
Alors, Monsieur Pasteur, vous avez fait un autre choix aussi, de pause musicale. Je vous laisse...
Eh bien, dans la même cantate. Tout à l'heure, je vous ai fait entendre avec le violoncelle, piccolo, le continuo qui était, pour ce passage-là, un petit orgue positif, et la voix de soprane qui chantait donc « Accorde-nous, Seigneur, que nous puissions conserver de manière pure ta parole et ton sacrement jusqu'à la fin des temps. » Maintenant, c'est le choral final. Alors, c'est celui qui conclut avec toutes les voix. Soprano, alto, ténor et basse, la cantate de ce lundi de Pâques de 1725. Et c'est une mélodie, là aussi c'est un cantique spirituel de la Réformation. C'est la deuxième strophe et la mélodie de Martin Luther lui-même, Erhalt uns herbei deinem Wort. La deuxième strophe dit, alors c'est en allemand toujours, hein, mais je traduis, « Montre ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Seigneur de tous les seigneurs, protège ta pauvre chrétienté, deine arme Christenheit, pour qu'elle te loue dans l'éternité, das sie dich lob in Ewigkeit. » Alors c'est tout simple, c'est d'une manière égale, les voix avec tous les instruments, il y a des hautbois ici, et des violons, et le continuo, pour conclure en fait ce moment musical qui précédait ou suivait la prédication dans l'église luthérienne de Leipzig au XVIIIe siècle.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivons cette émission en compagnie du pasteur Joliet. Cette émission est consacrée, bien sûr, au jour de Pâques et plus particulièrement aux apparitions de Christ, de Jésus, durant ces 40 jours du temps pascal. Je rappelle que le pasteur Joliet est l'auteur deux ouvrages consacrés à Jean-Sébastien Bach. Prier 15 jours avec Jean-Sébastien Bach chez Nouvelle Cité et aussi Bach, maître spirituel chez Talandier. Monsieur le pasteur, un auditeur vous pose cette question. Pourquoi est-il écrit dans les évangiles que Jésus... Et il écrit, pardon, dans les évangiles le premier jour de la semaine au lieu du Shabbat, du jour du Shabbat.
Ah non, ce n'est pas le jour du Shabbat, la résurrection, c'est après le jour du Shabbat. C'est exactement cela qui est d'ailleurs très, très incisif. C'est, le jour du Shabbat, c'est le jour où on ne fait rien. Chez les Juifs, non pas dans le sens où il ne se passe rien, on fait des loisirs, mais c'est le jour de la contemplation de la création de Dieu. C'est le septième jour de la semaine.
Le premier jour de la semaine, tel que les évangiles le mentionnent, c'est le dimanche.
C'est donc le lendemain d'une
nouvelle. C'est l'explication.
C'est une nouvelle semaine. Et c'est très important, ça. D'abord parce que, comme on a dit tout à l'heure, quand le corps de Jésus est déposé en sépulture, avec Joseph d'Arimathie, avec Nicodème, avec la Sainte Vierge et les autres, ils sont obligés de rentrer chez eux et ils sont non seulement. Dans la nécessité, mais c'est leur foi. Ce sont des juifs. Ils vont rentrer chez eux pour vivre comme les autres juifs, le Shabbat, qui est un jour de respect de la création de Dieu et de Dieu lui-même. Encore aujourd'hui, c'est très très beau d'ailleurs l'intention du Shabbat. C'est le septième jour où Dieu s'est reposé, comme on dit. C'est-à-dire que Dieu prend le temps de contempler les merveilles de la vie et nous l'apprend. C'est pour ça qu'on... On transmet aux enfants à ce moment-là les actes de libération que Dieu a accomplis pour son peuple, etc. Et on va à la synagogue. Etc. Bon, eux, à l'époque, donc, ils laissent passer ce jour. J'ai rappelé tout à l'heure que Jésus ressuscite dans la nuit du Shabbat au premier jour suivant, qui est donc le premier jour de la semaine, que nous appelons dimanche, jour du Seigneur, d'après l'étymologie latine. C'est fondamental. Parce que ça veut dire que ça se passe dans l'histoire de l'Alliance. C'est l'histoire de l'Alliance que Dieu a fait avec son peuple, et même déjà avant avec sa création. Le Shabbat, ça remonte, l'intention spirituelle et symbolique du Shabbat remonte aux sept jours de la création, au commencement, comme c'est raconté dans le livre de la Genèse. Puis ensuite, ça prend place dans le dispositif de la loi de Moïse et de toute la vie du peuple de foi juive. Et cet épisode de la résurrection de Jésus se passe dans ce cadre-là, dans ce contexte-là. Et si maintenant, pour nous, le jour de contemplation de l'œuvre de Dieu, c'est le lendemain du Shabbat, c'est parce que Jésus est ressuscité le lendemain du Shabbat, le dimanche. Premier jour d'une nouvelle semaine, premier jour d'une nouvelle création. Et on peut aller plus loin encore, parce que nos pères, dans l'Antiquité chrétienne, déjà avaient bien repéré cela. On peut le numéroter en huitième jour, comme accomplissement de la volonté de vie et d'amour de Dieu pour tous les univers même. C'est cosmique, ça concerne tout, c'est pas juste les gens qui croient, ça concerne tout, toute la création, elle est reprise en main. Il n'y aura plus désormais de larmes, etc., comme les prophètes l'annoncent. Hein. Évidemment, c'est une perspective, mais voilà, le lendemain du Shabbat, c'est le premier jour d'une nouvelle semaine, ou le huitième de la semaine du programme d'amour de Dieu.
Alors, monsieur le pasteur, la troisième apparition du Christ est très différente des deux premières. Celle aux apôtres, le dimanche soir.
Voilà.
Avant, donc...
Lendemain de Shabbat.
Avant le retour des disciples d'Emmaüs, qui eux sont sur la route du retour d'Emmaüs. Ouais. Et cette apparition, c'est aux 11 apôtres, moins Saint Thomas. Saint Thomas n'est pas là. C'est une apparition qui est très différente des autres. Je vous laisse la raconter.
Je précise, c'est après le retour des disciples d'Emmaüs, hein, puisqu'il arrive et il leur dit « La paix soit avec vous ». Mais ça, c'est le témoignage de Saint-Luc.
Oui, pardon, vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est juste après.
Et nous laissons parce que c'est témoignage de Saint-Luc. Oui, oui. Et Saint-Luc donc fait mettre au jour de la résurrection, le soir, le retour des femmes, bien sûr, alors ça c'était en début de journée, les pèlerins d'Emmaüs, Simon et... la paix soit avec vous pour le collège apostolique. Chez Saint-Jean, il n'y a pas ces épisodes-là, mais il y a effectivement le soir, là c'est concordant, Jésus qui va apparaître aux siens et qui va même leur donner le Saint-Esprit. Je vais peut-être lire le passage de Saint-Jean, hein, oui, pour que ce soit bien aussi positionné pour nous et pour nos auditeurs. Le soir venu, ce jour-là, donc le premier de la semaine où le Shabbat étant passé, les portes fermées où étaient les disciples par crainte des Juifs, Jésus se tient au milieu et leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montre ses mains et son côté, les disciples donc se réjouissent de voir le Seigneur. Il leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous donne mission. Et cela dit, il souffle, c'est très beau ça, il souffle et leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. J'interromps la lecture pour dire que c'est le seul endroit de tout l'évangile de Saint Jean où il est question de remise, donc du pardon des péchés. Et que ce pardon des péchés ou la retenue de cette miséricorde appartient désormais aux apôtres parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Non pas parce qu'ils ont un discernement particulièrement plus aiguisé que le nôtre ou que les autres chrétiens, mais parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est l'Église qui a reçu le Saint-Esprit ce soir-là, sauf qu'il en manque un. Alors, on pourrait dire ça s'arrête là, c'est formidable. Bon, voilà, on n'a pas dit combien ils étaient d'ailleurs, il en manque deux, très exactement, il manque Judas aussi, évidemment. Qui est mort entre-temps. Or, Thomas, un des douze qu'on appelle le jumeau, n'était pas avec eux quand est venu Jésus. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Et alors là, on est dans la foi au total. Nous avons vu le Seigneur. Et puis, il pourrait même ajouter, mais augmenter, là, c'est suffisant comme démarrage de témoignage, mais il pourrait dire, il a soufflé sur nous, le Saint-Esprit va venir, on va être envoyé en mission, etc. Ils disent pas tout ça, ils disent simplement, nous avons vu le Seigneur, ce qui est déjà, devrait le convaincre. Mais, il dit, si je ne vois dans ses mains la trace des clous, si je n'entre mon doigt dans la trace des clous, et si je n'entre ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Oui, alors je précise, parce que tout de suite, le grand patron des douteurs, hein, mais non, il dit, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Il dit pas qu'il croit pas en Dieu, qu'il croit pas en Jésus, il dit, je ne croirais pas que vous avez vu le Seigneur. À sa place, évidemment qu'on est, c'est le premier d'entre nous, Thomas. Son doute est presque une démonstration de sa foi. Oui, parce qu'il dit, moi, je croirais, on va dire positivement maintenant, je croirais si je vois et si je peux même toucher les plaies de la crucifixion. Il a raison. Et vous allez voir combien il a raison, parce que Jésus l'approuve.
Alors, j'aimerais comme vous poser, si vous le voulez bien, monsieur le pasteur, quelques questions sur cette apparition aux 11 moins Thomas, avant d'arriver justement à Thomas. Parce qu'elle est très différente des autres sous plusieurs aspects. Et la première question, c'est que là, les apôtres reconnaissent le Christ. Tout de suite.
Parce qu'il vient de leur parler. Je vous ai dit tout à l'heure que oui, quand il adresse une parole, et une parole à destination de quelqu'un, pas juste un enseignement comme ça.
Oui, mais il vient
générique.
De leur parler. Il a parlé.
Il a dit la paix soit avec vous.
Oui, il leur dit la paix soit avec vous, mais il parle aux disciples d'Emmaüs qui ne le reconnaissent pas pour autant.
Oui, mais nous avons dit tout à l'heure que c'est parce qu'il y a un cheminement nécessaire pour ceux-là, qui ne sont pas des apôtres, de se laisser rejoindre par autre chose que la figure du ressuscité. La figure, le visage, je dirais. Hein, Ah oui, on te reconnaît, oui, c'était bien toi, qui étais bien avec nous avant. On n'est pas dans ce registre-là. On est dans le registre d'éveiller la foi en celui qui est le soleil de justice, qui est le sauveur, qui ouvre au pardon des péchés et à la vie éternelle. Et c'est donc pas simplement reconnaître le Jésus qu'on a vu avant. Ici, qu'est-ce qu'il leur donne? Il ne dit pas bonjour. On pourrait penser qu'il dit bonjour. Bonjour les amis, c'est moi, vous m'en connaissez. Mais il donne la paix. Alors, certains veulent croire qu'il a simplement c'est une salutation ordinaire. Moi, je ne crois pas que lui, dans ce cadre-là qui est clos, il n'y a pas de spectateurs pour dire regardez comme ils sont nuls, ils n'ont pas encore cru, etc. C'est. Ils sont avec. avec leur découragement, leur crainte, leur espérance. Bien sûr, ils se souviennent de ce que Jésus a dit. Il leur donne la paix. La paix. La paix intérieure. Et ils se réjouissent parce qu'ils le reconnaissent. Parce qu'auparavant déjà, il leur a donné la paix avec tous ces miracles, ces paroles, et même son humilité d'aller au sacrifice de la croix. Donc bon, moi, c'est pas choquant du tout, cette histoire de pas reconnaître le visage du Christ. C'est une autre démarche, en fait. C'est en route, l'histoire d'Emmaüs. Là, ils sont chez eux, frileusement, voilà. Ils sont entre eux, et ils s'entretiennent de tout le bien qu'ils avaient reçu de Jésus. Et là, il leur dit, la paix sur vous. Paix. C'est extraordinaire, parce que on sort ce mot à toutes les sauces maintenant, évidemment, quand il y a la guerre et la paix. Mais là, c'est la paix offerte. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de négociation. C'est pas entre deux adversaires. C'est la paix, et puis elle est double de surcroît.
Monsieur le pasteur, nous allons faire une pause de quelques instants.
Et nous reviendrons sur Thomas.
Et surtout, nous allons revenir sur Thomas. J'ai encore d'autres questions à vous poser sur cette apparition. Première apparition au collège des apôtres. Voilà. C'est un point important que vous avez souligné. Très. Parce qu'ils le reconnaissent tout de suite, parce qu'eux aussi, ils sont en collège.
Voilà, exactement.
C'est l'Église.
C'est l'Église. Mais il en manque un.
Ça, c'est un... Voilà. Donc, mais on va quand même revenir sur cette première apparition. Ouais.